Écoutez pour mieux s'entendre.
Meet FM.
Dans les balises.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans The Voice of Dakar, le podcast ultime du projet Ways of Europe qui vous plonge au cœur du sujet de migration, de transition juste, de la mobilité douce et de l'emploi des jeunes. Vous allez apprendre, comprendre et désapprendre. Je vous invite donc à vous installer tranquillement avec un verre d'eau à côté.
Bonsoir, everyone. We are here today in Dunkirk as part of Ways of Europe project.
Nous sommes aujourd'hui à Dunkirk pour parler avec des habitants des questions vraiment importantes qui nous concernent tous, de l'immigration et la manière dont les communautés y répondent à la construction d'un avenir plus durable grâce à des projets respectueux de l'environnement. Dunkirk fait partie de grands pas dans cette direction. La ville a rendu tous les bus entièrement gratuits afin d'encourager les gens à utiliser les transports en commun plutôt que la voiture. La plupart de la flotte roule même au biogaz, une énergie bien plus propre pour l'environnement. Au port, de nouvelles technologies comme le cold ironic aident des bateaux à réduire leurs émissions. Des projets sont également en cours pour décarboniser les ferries transmarche. La ville investit dans les infrastructures pour la marche, le vélo et l'hydrogène. Et elle est en passe de devenir un pôle de production de batteries pour soutenir la mobilité électrique. Notre objectif aujourd'hui est simple. Écoutez, apprendre, partager vos pensées et vos expériences et donner la parole à celles et ceux qu'on entend peu. Nous voulons comprendre comment les sujets influencent la vie à Dunkirk et quelles idées existent pour bâtir un avenir meilleur et plus inclusif. Alors commençons cette discussion par des voix recueillies dans des rues de Dunkirk. Nous avons demandé aux habitants de partager leur opinion sur ces sujets.
Qu'est-ce que vous pensez de la transition écologique qui est mise en place sur Dunkerque? Est-ce que vous savez un petit peu ce qui se passe? Vous êtes informé dessus ou...
Alors en fait, je sais qu'il y a des choses qui sont mises en place, notamment sur l'accès aux bus gratuits. Déjà, ça fait partie de la transition écologique. Il y a aussi l'absence aussi de parking sur les nouvelles usines qui sont en train de se construire. En fait, ils sont en train de faire c'est autonome en fait, comme on a vu sur la place Jean-Bart il n'y a pas longtemps, là c'est des transports autonomes.
Ok.
Donc j'ai vu qu'il y avait ça. Après, au niveau de la transition écologique notamment, il y a d'autres choses qui me plaisent moins, mais je sais qu'il y a des choses qui sont mises en place.
Et dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que vous faites pour être plus écolo?
Je jette pas les papiers par terre, c'est tout. C'est tout.
Déjà je prends le bus.
Ouais.
Je marche beaucoup aussi. Ensuite, je trie bien mes déchets.
Je fais attention à l'électricité. Je fais attention à bien éteindre les pièces ou ça. Aussi, niveau chauffage, ça va pas plus de 19 degrés chez moi.
Merci. Voilà. Et pensez-vous que Dunkerque est une ville engagée dans l'écologie?
Oui, on voit quand même pas mal de choses autour de l'écologie au niveau de Dunkerque, pas mal d'événements.
Actuellement Dunkerque, ils font pas mal de choses, je pense. La communauté urbaine de Dunkerque, d'ailleurs, a créé un projet qui s'appelle le projet Éco-Gagnant. Donc c'est un dispositif qui permet aux habitants d'avoir des subventions ou alors d'être aidés dans l'achat, par exemple, que ce soit d'une cuve à eau. La communauté urbaine de Dunkerque incite les usagers à consommer l'eau du robinet. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites à partir du dispositif éco-gagnant, pardon. Cependant, je trouve qu'il y a encore pas mal de choses qui ne sont pas assez faites. On sait que le port de Dunkerque aujourd'hui reçoit des bateaux de croisière, donc ça assez peu cohérent avec ce que la ville promouvoit au quotidien, mais si, ouais, il y a pas mal de choses de faites. Hein.
Que pensez-vous des projets comme le parc éolien en mer du Nord?
Le parc éolien, je pense que ça peut être bien niveau écologique. Après, c'est vrai que niveau... on va dire visibilité, c'est tout ce qu'on va voir sur la plage, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en désaccord avec ça. Mais moi je trouve que ça peut apporter un bon point au niveau écologique.
C'est un long débat, je pense. Après il y a des pour, il y a des contre. Moi en tant que fervent dunkerquois, ça m'embêterait quand même qu'il y ait des éoliennes visibles depuis la digue. Plus de ça, on sait que pour l'écologie, on met des éoliennes, mais de l'autre côté, ça détruit la biodiversité avec les oiseaux, ça perturbe aussi le bon fonctionnement de la mer. Mais après, est-ce que c'est rentable ou pas? Franchement, je serais...
Ce que je trouve moins bien personnellement, c'est les éoliennes.
Ok.
Qui vont être mises en place dans pas très longtemps, parce qu'en fait, j'aime beaucoup les oiseaux. et c'est un axe migratoire important parce qu'en fait entre l'Angleterre et Dunkerque, au niveau des terres, ça se resserre et il y a des oiseaux qui passent uniquement par la mer pour migrer et en fait ça va être pile au milieu et en plus pour faire les travaux pour les éoliennes ça va être hyper bruyant en fait pour les pour la faune
ça
va durer des années et puis en plus ce que c'est dommage parce qu'on nous dit que Malo c'est la plus belle plage du Nord. Et en fait, il va y avoir des éoliennes aussi grandes que la Tour Eiffel. Donc,
Et du coup, on vous a pas du tout demandé votre avis sur ça. La décision a été prise, c'est ça. Et personne n'a demandé aux habitants ce qu'ils en pensaient ou.
En fait, vous pouvez donner votre avis sur les éoliennes. On peut donner son avis sur les sites du gouvernement, etc. En fait, c'est assez rébarbatif. Moi, je l'ai fait. Hein. Ouais. Mais c'est assez rébarbatif pour les gens. Et puis concrètement, il y a eu des affiches qui ont été mises dans tout Dunkerque ou Malo. Peut-être. C'est des affiches en jaune qui ont été placardées, genre consultation publique. En fait, les gens n'étaient pas forcément au courant. Et puis, quand il y a un grand pavé, on est tout le temps en train de regarder à droite à gauche, on est assailli par les images tout le temps. Je pense qu'il y a les trois quarts qui ne l'ont pas vu. Et comme c'est un affichage obligatoire, c'est pas très sexy. Donc, voilà.
Et selon vous, quels sont les points à améliorer à Dunkerque pour avancer vers une ville plus durable ?
Peut-être accentuer un peu plus la sensibilisation parce que je vois encore énormément de gens qui jettent énormément de choses par terre, qui ramassent pas forcément, surtout au niveau des cigarettes, les gens crient mégots, tout ça c'est énorme ici. Donc oui, peut-être un peu plus de personnes embauchées ou même de bénévoles qui marchent et qui sensibilisent les gens quand ils voient jeter quelque chose par terre ou...
Comment vous voyez cette question-là ? Comment vous pensez que ce serait possible de quand même amener à des usines plus vertes, mais tout en gardant de l'emploi ? C'est vrai que c'est une question qui est un petit peu compliquée. Est-ce que vous avez, vous, votre point de vue sur ça ou...
C'est une très bonne question, merci. En fait, c'est vrai que c'est assez délicat, mais les métiers aussi... les métiers verts qui se construisent aussi apportent, c'est des nouveaux métiers donc il va y avoir besoin de personnes dedans aussi. C'est une autre manière d'appréhender l'emploi. Ouais. Mais après, j'ai pas vraiment, je suis pas spécialiste.
Oui,
J'imagine qu'il y a des solutions parce qu'il y a des endroits où ils le font très bien. Mais avec le passif de Dunkerque, j'aimerais en tout cas qu'il y ait vraiment le côté vert qui soit important en fait et que ce soit pas juste. Un point de vue politique.
Ok. Donc ouais, en fait, il faudrait que la parole soit plus donnée en fait aux Dunkerquois, peut-être qu'on vous écoute un peu plus au niveau de ça.
Qu'est-ce que vous pensez de la politique de migration, la politique mise en place par l'État pour la migration ? Est-ce qu'ils sont bien intégrés ?
Ici, sur Dunkerque, on est face au problème justement de la migration. Je trouve que c'est malheureux parce qu'ils sont dans des genres de bidonvilles. On les voit à Grande-Synthe ou à Lone Plage. Et c'est triste, on les voit qui vivent dans la boue. Je trouve pas qu'il y a beaucoup de choses qui soient faites pour eux.
C'est une question assez compliquée parce que moi, comme j'habite Grande-Synthe, j'ai leur camp qui est pas loin de là où j'habite. Ouais. Après, c'est vrai que ces gens, ils sont pas forcément tout ce qu'ils ont besoin pour eux. Ils dorment dehors, tout ça, donc c'est pas forcément.
Donc ils sont pas bien intégrés dans la société, c'est ça ?
Même ils sont souvent mal regardés par les gens, toujours jugés. Voilà, alors qu'ils font de leur mieux par rapport à leur situation qu'ils ont vécue dans leur pays.
Et qu'est-ce qui favorise cela, ce jugement mal fondé parfois ?
C'est souvent le fait qu'ils viennent d'un autre pays, donc qu'ils ne parlent pas forcément notre langue, il y en a beaucoup qui disent qu'ils font n'importe quoi. Mmh. Voilà. Je trouve qu'ils sont mal jugés.
Mais je pense que l'immigration, c'est une chance, oui non. C'est une chance si elle est bien intégrée à notre société, si les personnes qui viennent ici sont intégrées, aidées. Pas, si c'est pour que les personnes viennent ici vivent dans des camps à Lone Plage ou à Grande-Synthe, je vois franchement pas l'intérêt. Donc ouais, ça peut être une opportunité, mais il faut savoir la gérer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit peut-être trop de... de personnes pour pas assez d'offres qu'on propose, en fait, tout simplement.
Tu trouves que du coup, ici, ils sont pas très bien intégrés?
Pas du tout, même. Ouais, ils sont pas du tout intégrés. On sait que toutes les semaines, il y a des démantèlements à l'Homme Plage, à Grande Sainte. Ils sont évacués toutes les semaines. C'est une tristesse pas possible d'aller voir prendre le bateau tous les soirs. D'un autre côté, il y en a trop. Qu'est-ce que l'État fait? À combien ça coûte? Enfin, c'est plein de questions que l'État doit se poser. Évidemment, ça reste des vies humaines, donc c'est très malheureux. Mais pour autant, ouais, c'est à l'État de prendre ses responsabilités là-dessus.
Et est-ce que tu trouves que vous êtes informé quand même sur ces sujets-là ou pas du tout?
Bon, en tant que Dunkerquois, je pense qu'on est informé volontairement. Enfin, on est plus souvent informé dû aux choses négatives qui peuvent se produire avec les migrants. Que ce soit par exemple des décès en mer ou alors, comme on a vu à Gravelines, des jets de cailloux sur les véhicules de la part des migrants pour je ne sais quelle raison. Mais oui, on n'est pas sensibilisé pour que cette action, enfin que cette immigration soit positive au vu de l'ensemble des usages. C'est très mal, c'est encore mal vu. Les migrants sont assez mal vus sur le Dunkerquois, ça c'est certain.
Vous avez plus les mauvaises informations.
Exactement. Exactement, ouais.
Et selon toi, si on leur donnait une meilleure infrastructure, est-ce que tu penses qu'ils auraient une vie plus stable?
Je pense que dans tous les cas, ils viennent ici, faire un grand débat, je peux dire bêtise, mais je pense que dans tous les cas, ils viennent ici avec pour objectif de partir en Angleterre. Donc, même si demain, évidemment, ça serait mieux qu'ils soient accueillis dans des vraies infrastructures plutôt que dans les temps des gymnases, il y a des femmes, il y a des enfants. Mais je pense dans tous les cas, l'objectif serait le même, partir en Angleterre et ils feraient la même chose. Après, évidemment, oui, ce serait mieux qu'ils soient dans des structures, qu'ils en détente, évidemment.
Et est-ce que tu sais pourquoi ils veulent partir en Angleterre ou pas du tout?
Je sais que c'est pour la régularisation des papiers, c'est bien plus simple administrativement qu'en France. Je sais que quand une fois qu'ils sont en Angleterre, au bout de X années, ils peuvent faire venir directement leurs femmes, leurs enfants, enfin leur famille directement. Donc, principalement pour ça qu'ils veulent aller en Angleterre.
Est-ce que vous pensez que l'immigration est une chance pour l'Europe? Votre point de vue sur ça, ouais.
En fait, moi je trouve que au-delà de la question, enfin, excusez-moi, je trouve que il n'y a pas à se poser cette question en fait, puisque c'est juste une question d'humanité pour moi. Et le fait que, enfin, en tout cas, je parle des immigrés, pas de l'immigration. Et en fait, c'est des personnes qui fuient la guerre, ils le font pas parce qu'ils ont envie de nous embêter, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est une question de respect de l'être humain pour moi de les aider en fait. Et en plus, vu l'argent qui est dépensé chaque jour par l'Angleterre en commun avec la France, etc., pour les repousser, et voilà. En fait, cet argent-là, juste si on les aidait, ça coûterait moins cher.
Ouais.
Donc pour moi, c'est même pas une question de chance, c'est que c'est normal. C'est pas, vous voyez, c'est au-delà de ça en fait. Mais sinon, après. C'est des gens qui étaient avocats ailleurs, qui étaient. Donc forcément, ça pour moi, c'est forcément une chance en fait. On est une terre des cultures et on est une terre d'immigration aussi. Moi-même, j'ai des racines polonaises.
On n'est pas 100%. On est tous issus d'autre part.
Bah, c'est ça. Puis nous, on a été aussi bien ailleurs. On s'est bien arrangé pour être ailleurs aussi. Donc,
c'est sûr.
Donc en fait, on est une terre de mélange et c'est normal en fait. Les frontières, elles ont été créées juste pour faire des guerres.
Et est-ce que vous trouvez que, si on prend l'exemple de Dunkerque, est-ce que vous trouvez que ici, les migrants, on va dire, sont bien intégrés, est-ce qu'ils sont bien accueillis ou... Parce que moi, je vous avoue que je ne viens pas de Dunkerque, donc je n'ai pas le point de vue des gens d'ici. Mais est-ce que vous trouvez qu'ils sont bien accueillis ou est-ce qu'il y a plutôt des tendances à les repousser? Comment vous voyez ça, vous aussi?
En fait, moi, je ne suis pas dunkerquoise depuis trop longtemps non plus. Ça fait 5-6 ans que j'habite pas. J'habite ici. Avant, j'étais dans les terres.
Ok.
Et en fait, ça dépend des gens. Et on a la chance d'avoir quand même des associations qui font vraiment un travail incroyable. Et après, j'ai absolument rien. En fait, ils font que obéir à des ordres, ce qui est normal. C'est leur travail. Coup, quand on voit que tous les jours, on va craquer les tentes, on va mettre les duvets à la poubelle. Je pense qu'il y a vraiment une ambivalence et c'est lié, c'est normal hein, à cet espace de frontière et donc il y a une tension permanente, mais c'est tout ou rien, je pense.
Merci à toutes celles ou ceux qui ont partagé leurs réflexions avec nous dans les rues. Passons maintenant à une chronique, un espace où des opinions différentes peuvent être échangées, confrontées dans une conversation ouverte et respectueuse.
Here is Today we will talk about just transitions, how cities can shift toward ecological sustainability while answering fairness for all. And to illustrate these challenges, we will look closely at the French city of Dunkerque.
Aujourd'hui, nous allons parler de la transition juste, de la manière dont les villes peuvent évoluer vers la durabilité écologique, tout en répondant aux principes de justice pour tous. Et pour illustrer ces défis, nous allons nous concentrer sur la ville française de Dunkerque. Par transition juste, j'entends la transformation de la société et de l'économie en faveur de la durabilité écologique, tout en prenant en compte la justice sociale. Cela signifie réduire la pollution, mais aussi veiller à ce que les personnes travaillant dans les industries polluantes ne soient pas laissées pour compte. Dunkerque est un cas intéressant. La ville possède une industrie lourde, un grand port et un poids économique important. C'est le troisième port maritime de France. Elle comprend des secteurs dominants dans la logistique, le transport maritime et aérien, ainsi que des dynamiques urbaines fortes. Par exemple, dans la ville, les bus sont gratuits. Elle a également investi massivement dans des infrastructures. L'objectif est de réduire la pollution et l'empreinte environnementale tout en maintenant l'emploi et en assurant l'indépendance industrielle. Dunkerque se veut un exemple pour l'avenir industriel. Elle a lancé un vaste projet d'usine de batteries porté par l'entreprise Verkor, dont l'objectif est de produire plus de 300 000 batteries lithium-ion pour véhicules électriques chaque année.
Also, ArcelorMittal, a huge industry, as in France we have
Il y a aussi ArcelorMittal, un acteur industriel majeur. En France, cette entreprise mène un projet d'investissement pour décarboner l'industrie. Mais ces projets soulèvent certaines nuances. Par exemple, la production de batteries implique des enjeux liés à l'extraction des matériaux, au recyclage et l'investissement d'ArcelorMittal suscite aussi des controverses quant à ses conditions et à sa mise en œuvre. À Dunkerque, il existe également des difficultés liées à l'emploi. De nombreux jeunes sont sans emploi car ils ne souhaitent pas travailler dans ces usines. Et pour ceux qui y travaillent déjà, où pourront-ils être employés si la ville se transforme? Quel type d'emploi pourrons-nous proposer? Il existe de nombreux exemples. De nouveaux métiers liés à la transition, tels que ceux de la décarbonation industrielle, de l'inspection, de la maintenance ou encore de techniciens en traitement de l'eau. Mais il est aussi possible de transformer les carrières dans les services, comme les transports publics, la mobilité, la planification urbaine, l'éducation ou l'emploi local. Et pour accompagner cette évolution professionnelle, en France, il existe la validation des acquis et de l'expérience. Un processus qui permet à chaque personne, quel que soit son âge, son niveau d'études ou son statut, de faire reconnaître son expérience professionnelle afin d'obtenir un diplôme ou une certification. Ce sont des exemples que nous pouvons observer à Dunkerque. Nous voyons aussi des exemples d'investissements venant des États, des régions, mais aussi de l'Europe, puisque l'entreprise de batterie a reçu un financement de la Banque européenne d'investissement. Je vais maintenant laisser la parole à Antoine qui va témoigner de son engagement pour la transition écologique.
Thank you, Arnaud. I'm now going to talk to you about ecological transition at la Ligue de l'enseignement. It's a mission that doesn't have a fixed department and aims to intervene in all.
Merci Arnaud. Je vais vous parler de la transition écologique à la Ligue de l'enseignement. C'est une mission transversale qui intervient dans tous les secteurs et départements de la Ligue de l'enseignement. Nous voulons créer une culture partagée autour de la transition écologique au sein de la Ligue. Nous organisons des ateliers sur la résolution de problèmes numériques et l'évolution des pratiques. Nous portons également des projets européens comme EcoReact, où nous faisons partie des acteurs européens travaillant à offrir une réponse éducative à la transition écologique pour les jeunes. À la Ligue de l'enseignement, nous participons aussi au projet Just for All, un projet européen faisant partie du Forum civil européen et du réseau solidaire visant à renforcer la sensibilisation à la transition juste de la société civile jusqu'aux institutions européennes. La mission de transition écologique agit également dans le domaine des politiques environnementales, notamment dans la collecte et la centralisation de données environnementales telles que la consommation d'énergie, l'usage de l'eau et la production des déchets. Nous pouvons ainsi constater l'ampleur du champ d'action concernant la transition écologique à la Ligue de l'enseignement.
So you can see we have very broad scope regarding ecological transition at la Ligue de l'enseignement.
Okay, so we want to talk about something that is very present in Barcelona, but often invisible, the inequality and precariousness that many migrant workers face.
Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très présent à Barcelone, mais également invisible la plupart du temps. Il s'agit donc des inégalités et de la précarité que de nombreuses personnes expérimentent au quotidien, particulièrement dans le secteur de la construction et de l'industrie. Il faut savoir qu'un tiers de la population de Barcelone vient de l'extérieur de l'Espagne. De ce fait, il y a beaucoup de diversité, mais par ailleurs, ces populations ont des métiers dangereux et difficiles et ne bénéficient pas de la même protection que le reste de la population.
Most of the people who end up on the job are migrants, and many of them don't even have papers. That makes everything harder.
Je me permets de vous partager mon témoignage. Mon père travaille dans la construction, et d'après lui, c'est quasiment impossible de trouver un ouvrier local qui souhaite travailler dans ce domaine. La plupart des ouvriers sont des personnes issues de l'immigration, et beaucoup d'entre elles n'ont pas les papiers, ce qui rend les choses extrêmement compliquées. Les entreprises ne peuvent pas faire de contrat de travail, et de ce fait, les ouvriers immigrés ne peuvent pas accéder aux mêmes droits que les autres.
En 2023, Catalogne a recensé 103 décès sur lieu de travail. La majorité de ces accidents ont lieu dans les domaines industriels. Depuis juillet 2024, plus de 30 000 accidents de travail aux alentours de Barcelone ont été recensés. Derrière ces nombres, il y a des êtres humains, très souvent issus de l'immigration, qui prennent des risques que d'autres ne prennent pas. En plus de cela, le loyer moyen à Barcelone depuis 2022 est plus élevé que le salaire minimal. Imaginez faire de longues journées de travail sur un chantier ou à l'usine et de ne même pas être capable de pouvoir payer un loyer. Ce n'est pas seulement injuste, c'est invivable. En vérité, Barcelone se dit être une ville ouverte et cosmopolite, mais elle est littéralement construite sur le dos de personnes qui ne bénéficient pas des droits fondamentaux.
And this isn't just a migrant issue. It's about the kind of city we want to live in. So for us, the lesson is clear. Dignity at work and access to housing cannot depend on your passport. If migrants are building our homes, our streets, our schools, then they deserve to feel at home here too.
When it comes to the experience of Arte Solidarietà and the people that that Arte Solidarietà work with in Rome, we do talk about people that feel really the uncertainties of our time.
Lorsqu'il s'agit de l'expérience d'Arte Solidat et des personnes avec lesquelles Arte Solidat travaille à Rome, nous parlons de personnes qui ressentent les incertitudes de notre époque. Quand il est question d'inclusion dans le travail et de transition, nous devons réfléchir aux expériences des personnes qui peuvent être considérées comme les perdants de la mondialisation, celles et ceux qui n'ont pas trouvé de sécurité dans leur vie. Lorsque nous parlons d'inclusion dans le travail et de droits, nous pouvons faire référence à l'expérience des personnes issues de l'immigration, des communautés roms et de celles qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité socio-économique. C'est à ces personnes que nous devons apporter des réponses sur la manière dont il est réellement possible de réaliser une transition juste et comment garantir que chacune puisse avoir un avenir meilleur. Mais bien sûr, nous devons prendre la mesure de ces défis, car ils ne concernent pas seulement les personnes avec lesquelles nous travaillons à Rome, mais ces expériences, ces voix et ces vies sont partagées à l'échelle mondiale, à Rome, à Barcelone, à Dunkerque et ailleurs dans le monde. En Italie, lorsque nous parlons de durabilité, nous rencontrons les mêmes défis et les mêmes problèmes que d'autres pays, car nous devons transformer le système industriel et agricole. C'est particulièrement vrai dans un pays où existent de grands sites industriels, notamment à Tarente et en Sardaigne, mais aussi dans d'autres secteurs historiquement liés à l'économie nationale. Et pour cela, bien sûr, il faut faire des investissements, des projets qui ne concernent pas seulement l'Italie, mais aussi les autres pays européens, et dans une perspective plus large, le monde entier. Bien sûr, il existe des mesures et des politiques actuellement mises en œuvre. Nous avons l'accord européen ainsi que des politiques visant à aller dans la direction de la durabilité. Mais nous voyons également les limites des outils dont nous disposons. Et cela se produit à un moment où nous entendons le président Trump affirmer que le changement climatique est une escroquerie, quelque chose qui n'est pas réel et qui n'existe pas du tout. C'est dans ce genre de monde que nous vivons aujourd'hui. Lorsque nous parlons de transition juste, nous devons considérer à la fois les limites et les opportunités, mais aussi essayer de relier les expériences locales, les voies, les problèmes et les défis à un cadre plus large qui puisse être appliqué non seulement dans l'Union européenne, mais dans le monde entier. Parce que nous parlons de la défense non seulement de l'humanité, mais aussi de la planète, de l'ensemble de la planète. Ainsi, concernant les outils actuellement mis en place, nous pouvons constater une tentative de créer davantage de coordination et de plans communs. Car lorsque nous pensons à l'environnement, celui-ci dépasse les frontières. Il ne s'agit pas seulement d'une ville ou d'un pays, mais de l'ensemble des pays. Mais le problème, c'est que pour mener une telle politique, il faut des investissements. Et pour avoir des investissements, il faut des outils économiques capables de rendre la politique possible. Et c'est là le grand défi que rencontre l'Union européenne. Nous ne disposons pas suffisamment de grands investissements capables d'avoir un impact sur les nombreuses villes et territoires. Nous avançons donc dans la bonne direction, mais nous devons aussi réfléchir à la manière de transformer structurellement le système pour qu'il soit en mesure de relever ces défis. Et cela doit se faire dans un effort partagé avec les autres pays du monde. Car nous savons qu'il existe des acteurs publics et privés qui vont dans d'autres directions. Nous devons donc redonner de la crédibilité au système multilatéral, au système des Nations Unies, au système des États qui souhaitent avancer dans une direction commune. Nous avons des objectifs partagés au niveau mondial, mais nous n'avons pas encore les bons outils pour mettre ces politiques en œuvre. C'est pourquoi la question de la transition juste est si importante. Au moment où nous commençons à trouver des ressources et des revenus à travers le prix du carbone, l'ajustement carbone aux frontières et d'autres instruments économiques, nous devons aussi réfléchir à la manière de redistribuer ces ressources collectivement. C'est pourquoi il est essentiel que ces ressources soient utilisées pour les personnes, pour le système économique, afin de protéger l'emploi et de garantir un sentiment de sécurité. Au final, notre défi est de faire en sorte que les citoyens ne perçoivent pas la durabilité et la transition comme quelque chose à craindre, mais bien comme une opportunité et un espoir pour l'avenir. Et pour cela, nous devons penser globalement et imaginer de nouveaux outils capables de rendre la transition réellement possible.
At the end of the day, the challenge that we have to face is to make sure that people do not perceive sustainability and the transition as something that should be afraid of, but really an opportunity and hope for the future. And to do that, we need to think structurally, we need to think globally, and we need to think about new tools that can really bring just transition to reality.
This debate gave us valuable insights and diverse perspectives.
Ce débat nous a apporté des idées précieuses et une diversité de points de vue. Pour aller encore plus loin, nous allons maintenant nous tourner vers des professionnels qui pourront nous aider à comprendre la situation dans une perspective plus large.
Alors moi, je m'appelle Emma Farnaro, je suis collaboratrice pour le député Julien Gauquel, donc le député de la 13e circonscription du Nord, donc de Dunkerque.
Voilà. Ça marche. Et du coup, on aimerait juste savoir un petit peu qu'est-ce qui a été mis en place en termes de projet écologique pour lutter contre la pollution dans la ville, etc.
Alors nous, on ne travaille pas trop en lien avec la ville de Dunkerque sur cet aspect-là, en tout cas là, pas tout de suite. Mais je sais que du coup le député, enfin en tout cas mon député, travaille sur des enjeux plutôt liés à la France de manière générale, du coup à Paris. Et on essaye un peu de décentraliser, de voir un peu ce qui est fait ici et de plutôt valoriser déjà les actions mises en place par le maire de Dunkerque ou les choses qui se font à Dunkerque et du coup de participer comme on peut, parce que on n'a pas trop d'influence directement sur Dunkerque, mais de faire un lien entre Paris et du coup Dunkerque, ces enjeux-là, quoi.
D'accord. Et du coup, si jamais vous avez des idées, genre vous personnellement, qu'est-ce que vous sortiriez à faire si jamais c'est vous qui avez la possibilité de proposer des choses ?
Moi, j'ai fait un master qui était un peu dans le domaine de l'écologie, tu sais, la transition écologique. D'accord. Donc, c'est sûr qu'on, en tout cas pour ma part, j'essaie d'avoir des démarches un peu personnelles déjà de mon côté. Et de quand je peux et qu'on me demande mon opinion et mes démarches, j'essaie de participer à ça avec le député et de voir ce qui est possible de mettre en place et comment on peut le faire. Et ça ne me dérange pas justement de donner mon opinion, de participer à ça.
D'accord, c'est génial. Et sinon, en termes plus global, genre la France, l'Europe, etc., mm-hmm. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour l'écologie ou alors pas de temps ?
Moi, je pense qu'il y a déjà des choses bien qui sont faites et que c'est important de valoriser. On va ça rend d'être dans le négatif, mais je pense que c'est moindre comparé à ce qu'il faudrait faire là, maintenant, et que là, c'est des démarches qui sont bien, mais après, c'est l'effort collectif et pas toujours des mêmes personnes. Là, nous, on en demande beaucoup aux gens, mais c'est aussi les grands patrons d'entreprise, etc., qui doivent se mobiliser davantage.
Alors, dites-nous tout, c'est quoi du coup, on est dans une association ici, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, de ce que vous faites, votre but?
Alors ici, on est dans le local de l'association AFEV, donc AFEV Dunkerque, c'est une association nationale, l'AFEV. Elle est présente dans 81 pôles en France et aussi à l'étranger, à Barcelone et à Bruxelles. Il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de programmes tournés autour de l'éducation populaire. Moi, personnellement, je suis en charge de ce qu'on appelle le mentorat étudiant. Le mentorat étudiant, c'est un jeune qui va être accompagné 2 heures par semaine par un autre jeune, donc un étudiant ou un actif, dans le but de l'aider dans ses besoins personnels, ses besoins scolaires, etc. Il y a plusieurs raisons de repérage, comme on appelle. Et donc, pendant une année, ils vont nouer une relation de confiance et ils vont se voir 2 heures par semaine, donc soit au domicile, soit dans un tiers-lieu comme une bibliothèque, etc. Voilà un peu, pour donner quelques chiffres, sur Dunkerque, on a une centaine d'enfants qui sont accompagnés sur ce volet-là du mentorat étudiant. Il y a aussi l'existence du mentorat lycéen. Donc là, c'est des lycéens qui vont s'engager auprès d'un enfant dans un atelier au sein d'un établissement scolaire, pour le coup, ce sera 1 heure par semaine et non 2. Ouais.
Ok. Et du coup, si on parle un peu de sujet comme l'immigration, c'est quoi votre lien?
Notre lien sur l'immigration? Ouais. Alors, je ne sais pas comment je pourrais formuler ça, mais c'est vrai que parmi nos bénévoles, on a beaucoup d'étudiants qui sont étrangers, qui sont venus donc exprès en France pour faire des études, souvent des études scientifiques, etc. On a un public qui est très très diversifié. Ça permet aussi de faire de l'échange culturel, de faire du lien, etc. Voilà un peu, nous, notre approche sur ce sujet-là.
Et est-ce que vous trouvez que justement ces personnes du coup étrangères, entre guillemets, sans être péjoratif, ils arrivent à quand même bien s'intégrer ici? Est-ce que ils ont des difficultés? Des fois ils rencontrent peut-être des difficultés.
Nous on a quand même un public de jeunes étudiants qui fait partie d'une catégorie, qui arrive plus facilement à s'intégrer parce qu'ils sont souvent assez très diplômés et ils viennent faire leur master, etc. Donc au niveau des étudiants, nous on remarque qu'il y a quand même une intégration assez facile vu qu'ils sont dans des parcours type ingénieur, etc., et avec un métier prédestiné. Par contre, au niveau du public des enfants qu'on accompagne, c'est aussi l'objectif de l'association, c'est qu'on remarque qu'il y a pas mal de parents qui ont des difficultés au niveau de la langue et donc du coup qui n'arrivent pas à aider leurs enfants, que ce soit au niveau des exercices de lecture, au niveau de plein de choses administratives, etc. Et donc, ils vont venir soit vers nous, l'éducation nationale va nous les repérer en nous disant, tel enfant a besoin d'une aide sur tel problème, tel sujet, etc. Et c'est là aussi que, du coup, il y a un bénévole qui va pouvoir un peu appuyer tous ces soucis-là. Voilà. Après, au niveau de la volonté d'intégration, moi, je pense que c'est assez évident. J'ai toujours remarqué des familles ou des bénévoles qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de s'intégrer, je ne sais pas si c'est le mot, mais au moins de participer à la vie en société, même au niveau de l'engagement, quoi.
Et il y a des personnes qui n'ont pas la volonté de s'intégrer ou qui refusent l'accompagnement?
Franchement, on en a très peu qui refusent l'accompagnement dans l'association, surtout sur ce profil de personnes. En plus, sur Dunkerque, on a quand même des réfugiés ukrainiens, etc. On a aussi travaillé avec des mineurs isolés. À chaque fois, l'accompagnement, il est plutôt bien vu. Il n'y a pas de différence, en tout cas, entre une famille qui vient de l'étranger et une famille d'ici, au niveau de l'acceptation de l'accompagnement.
Ok, et au niveau de la politique que la ville a mis en place à ce niveau-là, est-ce que vous voyez quelque chose, enfin, est-ce que c'est bien vu, est-ce que c'est mal vu, qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement?
Moi, je pense, en tant qu'association, en tout cas, il n'y a pas forcément, on n'a pas observé de grandes différences au niveau de la politique qui est mise en place par la ville, et même chez les habitants, enfin, chez les personnes qu'on accompagne, on va dire que elles sont plutôt comme si il n'y avait pas de politique particulière, quoi. En tout cas, y a, c'est sûr qu'au niveau de l'accompagnement social, y a quelques aides, etc. Après, je sais pas, j'ai pas trop de retour là-dessus, quoi.
Ok.
Et selon vous, est-ce que l'État pourrait aider un peu plus ces personnes en améliorant leur infrastructure, par exemple, pour leur donner envie déjà de rester là et de participer comme tout le monde?
Ah ouais, complètement. Après, surtout, je veux dire, au niveau du tissu associatif de Dunkerque, où des fois, il y a un sous-investissement, il y a un manque d'infrastructures. Il y a plein de passerelles qui pourraient permettre aussi, donc nous, je veux dire, en tant qu'association, on essaie de favoriser l'émancipation des jeunes. Et c'est vrai que voilà, on va se considérer comme des associations qui sont plutôt essentielles pour le territoire. Et donc, c'est vrai qu'en... Si on accentuait un peu les investissements sur ce sujet-là, ça pourrait permettre aussi de créer plus de vocation, plus d'envie, et donc, in fine, de voir rester ici, quoi, en créant des moyens de réussir.
Et peut-être que ça donnerait peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une autre peut-être image de l'immigration que celle qu'on a actuellement, parce que je pense qu'on n'a pas une très très bonne image de l'immigration. Est-ce qu'il y aurait moyen peut-être de faire changer ça?
Oui, après, nous, c'est aussi ce qu'on essaie de faire dans l'association. En fait, de montrer qu'il y a une diversité, de créer une égalité des chances, que tout le monde parte du même point, et de prouver, entre guillemets, mais voilà, qu'on se dit qu'en créant du lien entre plusieurs communautés, que ce soit entre les étudiants, les quartiers populaires, etc., on va un peu, comment dire, questionner les stéréotypes, les préjugés. Après, ça reste une échelle qui est insuffisante, parce que il y a une autre échelle qui est nationale, qui est mondiale.
Oui, là, vous êtes vraiment un local. Voilà. Et du coup, quand vous dites que vous essayez de faire changer ça, est-ce que vous avez des actions que vous menez, ou comment vous mettez ça?
Alors nous, au niveau de notre échelle d'action, il y a effectivement donc ce qu'on appelle le mentorat. Donc déjà, voilà, le mentorat, c'est souvent un échange assez culturel, etc. Des actions plus concrètes, là, ça va plus être relatif aux médias. Ça nous est arrivé de faire des ateliers sur des informations sur le rapport aux médias, etc. Donc voilà un peu tout ce qu'on fait. Et puis, on reste quand même vachement vigilant à lutter contre toute forme de discrimination.
In conclusion, this podcast has conveyed the voices of Dunkerque, highlighting critical immigration and the just transition.
En somme, la voix de Dunkerque vous fait part, à travers ce podcast, certains thèmes essentiels sur la question de l'immigration et la transition juste. Autant d'idées et de solutions ont été émises afin de trouver une solution optimale durable. Ainsi, nous restons confiants que le pot de Sacon pour le bien de tous va se traduire en action afin d'atteindre l'objectif d'un monde équilibré.
Écoutez pour mieux s'entendre. Meet FM.